Romans, BD, documentaires, livres pour enfants ou guides de voyage, c'est qui ou quoi sur Radio Dio. Une demi-heure, voire une heure pour parler de livres à lire tout à l'heure avant d'aller se coucher ou demain à n'importe quelle heure de la journée. Ce soir un peu spécial surtout parce que c'est la dernière de la saison, et comme toutes les dernières de la saison depuis maintenant 4 ans je crois, je laisse les rênes de l'émission à Tiffaine. Donc bonjour Tiffaine.
Bonjour Axel.
Et ben voilà, c'est parti, je te laisse les rênes de l'émission.
Et bien merci. Alors avant de parler d'un gros pavé de sociologie en deuxième partie d'émission, ce soir je vais commencer par un livre écrit par un psychiatre qui s'intitule « Harcèlement scolaire, guide pratique pour aider nos enfants à s'en sortir ». C'est un livre qui est paru en août 2020, il coûte 20 euros et son auteur s'appelle Philippe Haïm. Haïm, ça s'écrit A-I-M. Alors avant toute chose, quelques avertissements utiles parce que pour le lire, il va falloir passer outre un certain nombre de choses. Je vais commencer par les critiques. Alors d'abord, le titre fait immédiatement penser au développement personnel, à la communication non violente, ces nouveaux chants très à la mode qui font le bonheur de la bourgeoisie. Pourquoi ? Parce qu'ils proposent pour toute réponse à leur violence sociale des solutions individuelles sans traiter les problèmes à la racine. De plus, l'auteur est un jeune psychiatre parisien à succès, déjà médiatisé, dont le style fait penser à la bourgeoisie macronienne. Ce qu'on voit bien dans une vidéo sur YouTube, par exemple, quand il se met en scène en train de chanter l'hymne de nos campagnes à la guitare, ce qui ne donnera pas à tout le monde l'envie de lire ses livres. Et puis, son discours est plein de lieux communs à la mode qui révèlent une vision du monde que Bégodeau rattacherait à la bêtise bourgeoise. Il dit des phrases du style « il faut responsabiliser les enfants », expression très à la mode d'ailleurs dans l'éducation nationale et au cœur de la réforme de Blanquer. Malgré tout, d'un point de vue purement individuel, le propos n'est pas idiot, car pragmatique, et la méthode qu'il propose me semble efficace. Alors d'abord, il faut rappeler ce que c'est que le harcèlement scolaire. Il s'agit d'agressions répétées, très régulièrement, voire quotidiennement, subies par des élèves, qu'elles soient physiques, coups, bousculades, croche-pieds, etc., verbales, insultes, moqueries, incitations au suicide, dans les cas les pires, ou symboliques, s'attaquer aux affaires, faire des gestes humiliants, etc. En tout cas, les chiffres sont terrifiants, puisqu'il y aurait rien qu'en France 700 000 enfants victimes. D'après les enquêtes du ministère de l'Éducation nationale, 10% des collégiens en seraient victimes, mais ce chiffre est peut-être très sous-estimé, puisque d'après les statistiques réalisées en 2018 par l'UNESCO, un élève sur trois dans le monde en serait victime à des degrés divers. Même dans les cas les plus légers, se faire insulter, intimider tous les jours, même par seulement deux ou trois camarades de classe pendant quelques semaines, peut suffire à déclencher une dépression ou une phobie scolaire. Et dans les cas les plus lourds, certains enfants se font bousculer, frapper, mettre à l'écart, moquer, insulter par tous leurs camarades ou presque tous leurs camarades pendant des années, voire pendant toute leur scolarité. Bien souvent, les enfants ne le disent pas aux adultes, et encore moins à leurs parents, puisqu'ils ont honte de ce qui leur arrive, et souvent aussi parce qu'ils ont peur, parfois d'ailleurs à raison, puisque peur qu'on ne les protège pas ou que cela s'aggrave. Et la plupart des cas passent inaperçus. Or, les conséquences sont souvent lourdes et durables. Perte de confiance en soi, isolement, vie sociale, amicale et amoureuse compromise ou compliquée, y compris longtemps après à l'âge adulte, dépression sévère. Une enquête révèle aussi qu'un quart des enfants harcelés ont des idées suicidaires et certains passent même à l'acte. Alors aujourd'hui, on nous dit que le harcèlement a toujours existé, mais qu'on l'a découvert récemment. C'est un peu comme le clitoris, quoi. Mais ça y est, on en parle depuis les années 2010. Le harcèlement a été médiatisé, alors notamment France 2, en 2015, y a consacré une émission d'une heure qui s'intitulait « Souffre-douleur, il se manifeste », on peut la retrouver sur YouTube, où l'on entendait des témoignages de victimes. Par exemple, celui de Jonathan, qui s'est immolé par le feu, qui a survécu, mais qui est resté grand brûlé à vie. Ou encore les parents de Mathéo, pendu à 14 ans, harcelé parce qu'il était roux. Et aussi la maman de Marion, élève de 4e, suicidée elle aussi. Et puis l'éducation nationale s'est mise très vite à former des profs, dans le cadre d'une campagne européenne et mondiale. Mais d'après les enquêtes récentes, le harcèlement n'a pas pour autant diminué vraiment. Malgré ces efforts, qui restent assez dérisoires face à l'ampleur et à la gravité reconnue du phénomène, l'indifférence des adultes du milieu éducatif est encore très répandue aujourd'hui. Alors il faut d'abord préciser que les adultes d'un établissement scolaire ont rarement les moyens de se rendre compte de ce qui se passe entre les élèves, puisque ces violences surviennent généralement hors de leur vue et hors de leur présence, pas en classe, mais plutôt dans la cour, dans les couloirs, à la cantine ou à la sortie du collège ou du lycée, et de plus en plus, surtout sur les réseaux sociaux. Mais même quand ils sont mis au courant, beaucoup d'adultes minimisent en qualifiant ces violences d'histoires entre gamins. Ça se retourne même souvent contre la victime. Les gens réagissent en disant par exemple « mais il l'a pas un peu cherché ?» Ce qui est absolument dévastateur au passage. Il y a même des profs qui participent, voire qui provoquent des situations de harcèlement. Récemment, on a eu un cas médiatisé, celui d'Evaël, qui s'est pendue à 11 ans. Une affaire dans laquelle sa prof de français est mise en cause. Ce livre sur le harcèlement ne s'adresse pas aux enfants mais aux adultes, susceptible de les aider, mais il peut quand même être lu par des enfants ou adolescents familiers avec la lecture. D'ailleurs, cette méthode peut aussi aider des adultes, parce qu'il n'y a pas d'âge pour se faire insulter ou harceler, que ce soit au travail ou dans la rue. L'auteur part de constats très pertinents en montrant que les recettes appliquées contre le harcèlement ne marchent pas. D'abord, on invite généralement la victime. La première chose à faire, c'est d'en parler aux adultes. Mais que vont faire les adultes ? Soit minimiser, soit punir ou faire la morale aux auteurs. Et ce, au mépris de réalités pourtant bien connues des cours de récré. D'abord, pour les élèves, il est très tentant de ne pas suivre les leçons de morale des adultes qui représentent l'autorité. En punissant, on montre à la victime qu'elle a besoin des adultes pour la défendre. Et du coup, elle est encore plus désarmée. Elle passe aussi pour une balance, insulte extrêmement répandue. Les auteurs punis vont aussi être tentés de recommencer et ça peut s'aggraver. Un autre travers, c'est qu'on invite les suiveurs à se comporter en héros. Alors les suiveurs sont désignés par une expression jadis chère à Nixon qui est la majorité silencieuse et qui désigne l'ensemble des gamins qui ne sont pas à l'origine du harcèlement mais qui participent en rigolant, en rajoutant, etc. Et ça, c'est typique des vidéos de 2 ou 3 minutes proposées par l'Éducation nationale, destinées à être diffusées en classe, où une victime se fait agresser toute la journée. On la voit se faire agresser, on la voit subir humiliation sur humiliation. Et tout à coup, un des suiveurs change brutalement de comportement et se met à la défendre. Alors, au-delà de la lucidité extraordinaire des gens qui ont fait ces vidéos, c'est surtout très culpabilisant pour la majorité des élèves qui ne peuvent pas adopter cette attitude beaucoup trop risquée pour eux. Une autre grande erreur, c'est qu'on fait comme si le harcèlement était dû à des différences. Le poids, la taille, les résultats scolaires, les vêtements, les cheveux, l'orientation sexuelle, etc. Et si les moqueries portent effectivement souvent sur ce genre de caractéristiques, ce que montre l'auteur, c'est que ces différences ne sont que des prétextes. Sinon, 100% des enfants en surpoids ou petits ou intello, etc. se feraient harceler. Or, certains d'entre eux sont des harceleurs. Ce que montre l'auteur, c'est que la seule raison du harcèlement, la seule raison pour laquelle il continue, c'est parce qu'il marche, c'est-à-dire que la victime est touchée, elle le montre, donc ça marche, ça resserre les liens du groupe et l'agresseur se sent valorisé devant ses copains. Alors une méthode testée dans un nombre croissant d'établissements pour lutter contre le harcèlement, c'est la médiation entre élèves. Elle vise les suiveurs et consiste à susciter leur empathie. On leur demande régulièrement des nouvelles d'un élève ou d'une élève qui n'a pas l'air d'aller bien. Cette méthode peut être efficace parfois et encourager l'entraide, mais elle présente quand même 2 gros problèmes. Elle suppose pour les adultes de deviner qu'un ou une élève est harcelé, or c'est souvent impossible. Et elle a pour désavantage de montrer à la victime, encore une fois, qu'elle a besoin des autres pour s'en sortir. Philippe Haïm, lui, part du principe que se défendre n'est pas une chose innée mais que ça s'apprend, et du constat qu'on n'apprend pas ou pas assez aux enfants à faire face aux agressions, alors même qu'on sait qu'ils y seront confrontés à un moment ou à un autre de leur vie. Alors quelle est sa méthode qui propose d'armer les victimes ? D'abord, il invite l'adulte à cesser de donner 2 grands conseils qu'on donne souvent aux enfants. D'abord celui d'ignorer les insultes, ça ne marche pas parce qu'en faisant ça l'enfant montre plutôt sa sidération, son incapacité à se défendre. et celui de répondre à l'insulte par l'insulte. Ça ne marche souvent pas non plus, parce que l'agresseur est souvent plus fort à ce jeu-là, et aussi souvent plus nombreux. Donc il s'agit au contraire d'adopter une attitude qui nécessite un peu d'entraînement, mais qui peut s'approprier très facilement par des enfants de tous âges. Il s'agit de répondre activement par une attitude amicale. Alors d'abord, cette suggestion pas du tout intuitive peut agacer. Est-ce qu'il s'agit de tendre l'autre joue ? Non, en fait, il s'agit d'imposer à l'adversaire un mode de relation gentille par des réactions inattendues qui le désarment et le ridiculisent, en réagissant systématiquement aux moqueries, aux brimades par des gentillesses. Cette méthode s'appuie sur une règle de base des relations sociales. Il est extrêmement difficile de rester méchant avec quelqu'un qui s'obstine à être gentil avec vous. La victime peut par exemple répondre aux insultes par des questions. Par exemple, « Et alors ? Ah bon, tu trouves ?» En acquiesçant. Par exemple, « C'est vrai, t'as raison. » Voire, elle peut aller plus loin en complimentant l'adversaire. Par exemple, « J'aimerais bien être belle comme toi par contre. » Ou encore, « Toi t'as de la chance, t'es trop stylée. » Elle peut aussi ajouter de l'autodérision. « C'est vrai, j'ai grossi, mais en hiver c'est pratique, ça tient chaud. » Le but, c'est de montrer que les mots les plus blessants ne peuvent plus la toucher. Il s'agit donc de mettre ses émotions de côté et de reprendre stratégiquement, mais très facilement aussi, le contrôle de l'échange. Et c'est un des aspects les plus intéressants du livre, c'est qu'il aborde les relations sociales sous l'angle de la stratégie. Si l'enfant ou l'ado parvient à appliquer cette méthode de façon systématique, c'est-à-dire à chaque insulte 100% du temps, il peut, d'après ce qu'en dit l'auteur, et l'expérience de beaucoup de ses patients, désamorcer des cas même lourds de harcèlement verbal du jour au lendemain. Alors attention, l'auteur précise bien que cette méthode n'est pas applicable dans les cas de harcèlement les plus graves, de type tabassage, agression sexuelle, racket armé, mais ces formes sont aussi les plus rares. Il peut marcher, cette méthode peut marcher contre le cyberharcèlement. Le livre propose aussi de multiples dialogues qui peuvent inspirer la victime, des dialogues qui ont été retranscrits de situations réelles. Je vais en lire un exemple. Ici, la victime est une fille qui, depuis des mois, se faisait traiter tous les jours de « grosse et moche ». La harceleuse l'aborde. « Alors, toujours aussi grosse et moche ? Bah, tu dis que je suis moche, c'est parce que t'as pas vu ma mère. Quoi ? Bah oui, si tu voyais ma mère. » L'insulteuse interloquée s'en va et revient le lendemain. « De toute façon, t'auras jamais de mec tellement t'es moche. Oh, bah, je te l'ai dit, tu devrais voir ma mère. Ouais, grave, ton père a dû se forcer, hein, sinon tu serais pas là. » Peut-être, je sais pas ce qu'il lui a pris. Ouais, personne ne voudra jamais de toi. Ben, peut-être, je sais pas, on verra. T'as de la chance, toi, d'avoir Cédric. Ouais, il est à moi, ok ? Carrément, vous avez de la chance. Là, le harcèlement s'est arrêté. Un mois plus tard, une de ses anciennes harceleuses est revenue. Ben alors, t'es toujours aussi moche ? Je prends note de ton opinion, merci. Fin du dialogue, ça n'a plus jamais recommencé. Et dans le livre, on a de nombreux dialogues de ce type qui sont adaptés à des tas d'insultes et de moqueries de situations différentes qui peuvent inspirer des victimes. Dans la plupart des cas, si l'on en croit l'auteur, le harcèlement s'arrête rapidement, il serait évidemment nécessaire d'avoir un point de vue extérieur sur les résultats de sa méthode. Alors bien sûr, ce livre de psychologie ne peut que proposer des solutions individuelles à un problème collectif, puisqu'il s'agit pour la victime de faire en sorte que l'agresseur soit tenté de s'attaquer à quelqu'un d'autre. Pour attaquer le mal à la racine, il faudrait sans doute s'attaquer à la violence du système scolaire dans la société capitaliste. Violence du tri social, de la compétition scolaire, surtout en France, pays le plus inégalitaire de l'OCDE. Mais en attendant, peut-être serait-il urgent de sortir cette méthode du champ de la psychiatrie et de se l'approprier, de l'utiliser pour enseigner aux enfants la stratégie des relations humaines. Il y a quelque chose aussi de très politique à armer les victimes. Il y a un enjeu politique aussi à considérer que ce qui arrive à 10, voire 20, voire 30% des enfants est un problème urgent. Il serait peut-être temps que tous les gens qui souhaitent une transformation sociale radicale s'emparent de ces principes, qui sont des principes d'autodéfense universelle. Il est temps aussi de se rappeler que les violences sociales ne sont pas faites que de racisme, de sexisme et d'homophobie. Or, souvent, les tendances militantes actuelles, c'est de se focaliser sur ces luttes à tiroir.
Thank you.
Retour en direct sur Radio Duo dans l'émission Qui ou Quoi. Alors j'ai parlé d'un livre de psychiatrie dans la première partie, je vais maintenant parler d'un livre de sociologie, cette science qui, selon Pierre Bourdieu, vise davantage à donner des armes qu'à donner des leçons, comme toutes les sciences d'ailleurs. Il est intitulé « Enfance de classe », il est sous-titré « De l'inégalité parmi les enfants ». C'est un gros livre de 1200 pages dirigé par Bernard Lahire, un sociologue lyonnais qui s'inscrit dans l'héritage de Bourdieu. Il a été publié en août 2019 aux éditions du Seuil et coûte 27 euros. Il s'agit d'un gros travail collectif mené par une équipe de 17 sociologues pendant plus de 4 ans. C'est une enquête réalisée auprès de 35 enfants, tous scolarisés en grande section de maternelle, 35 enfants de catégories sociales différentes. Alors, les auteurs écrivent ceci en introduction qui résume bien l'objet du livre. Nous avons rencontré des enfants vivant dans la rue et des enfants de riches entrepreneurs, des enfants qui ne maîtrisent pas très bien le français et d'autres qui tentent déjà le passé simple et jouent avec les mots, des enfants qui sont habillés avec des vêtements de marque et d'autres qui n'ont que des vêtements de récupération. Nous avons voulu, dans la mesure de nos moyens, témoigner de la réalité de vie très contrastée d'enfants de 5 ou 6 ans aujourd'hui en France. Alors pour chaque enfant, les sociologues ont réalisé 5 entretiens, 3 au domicile de l'enfant auprès de ses parents, 1 auprès de son enseignante à l'école maternelle, accompagné d'une journée d'observation de l'enfant en classe, et un auprès d'un autre adulte qui côtoie l'enfant, que ce soit un ami, une nourrice, un autre membre de la famille. Et tous ces entretiens ont été effectués entre 2015 et 2017. Un questionnaire long et précis a préalablement et collectivement été élaboré pour mener ces enquêtes. Il ne s'agissait pas d'étudier un grand nombre de cas pour obtenir des statistiques, mais à l'inverse, de privilégier une approche qualitative. C'est l'originalité du livre. Il s'agissait d'étudier de manière très approfondie un petit nombre d'enfants pour rendre compte des conditions de vie concrètes, mais dans tous leurs aspects, c'est-à-dire niveau de revenus, situation socio-professionnelle, niveau scolaire de la famille, conditions de logement, pratiques éducatives, alimentaires, vestimentaires, sanitaires, scolaires, culturelles, religieuses, ludiques, sportives ou encore langagières. Le questionnaire et la méthode utilisée sont assez longuement détaillés dans l'introduction. Et le cœur du livre, ce sont 18 études de cas décrivant les conditions de vie de 18 des 35 enfants étudiés, soit la moitié. Chacune des descriptions fait une quarantaine de pages. Et les 18 études de cas sont réparties en 3 grands groupes sociaux, 6 enfants de classe populaire, 6 de classe moyenne et 6 de classe supérieure. Alors ce livre permet d'abord de montrer les distances abyssales entre les enfants de familles les plus précaires et ceux de la grande bourgeoisie. Je vais développer 2 exemples. Parmi les familles les plus précaires, on a Balkis. Alors évidemment, les prénoms des enfants ont tous été modifiés. Balkis, c'est une petite Algérienne qui vit dans une voiture avec son père et ses 3 frères et sœurs, avec tout ce que ça implique, d'inconfort, de puanteur, de froid, de manque de place, de dépendance à la lumière du jour, de manque de sommeil, de dénuement extrême, plus la dépendance au périscolaire pour manger, l'impossibilité de laver son pantalon pour le papa parce qu'il n'en a qu'un, la dépossession totale de son temps, il est entièrement soumis aux institutions, il a des rendez-vous multiples qui lui sont fixés par Pôle emploi, la mairie, les assistantes sociales, l'école, etc., qui lui sont imposés sans tenir compte de ses conditions de vie. Il subit aussi des discours culpabilisants, des attitudes suspicieuses des institutions, notamment de l'école. Et en plus, il maîtrise faiblement le français. Tout cela cumulé, il n'est pas extrêmement surprenant que Balkis soit une élève agitée, qui ne respecte aucune règle, d'un niveau faible et avec des problèmes relationnels. À l'autre bout de l'espace social, dans les 1% plus riches, on a Valentine, qui vit dans un grand appartement du 7e arrondissement de Paris. Sa mère est une ancienne DRH, son père dirigeait une PME et les deux ont arrêté de travailler. Alors Thomas Piketty a bien montré que l'essentiel du capital économique des plus riches, de très loin, est constitué de patrimoine et d'héritage, beaucoup plus que des revenus du travail. Dans la famille de Valentine, on a des bourgeois d'affaires, un polytechnicien, un trader, un cadre du BTP. Ses parents sont mécènes de l'opéra, ils sortent à la Comédie française, et toute la famille est membre du Racing Club, qui, en faisant payer 7000 euros par personne et par an, garantit l'entre-soi à la grande bourgeoisie, en lui proposant du tennis et de la natation. Valentine part aussi chaque année une semaine au ski à Méribel, une station très chère, et 3 semaines à l'étranger. Elle entend ses parents parler couramment, quotidiennement anglais, et ses parents lui payent en plus une jeune fille au pair, anglophone, soigneusement sélectionnée pour s'occuper d'elle. Elle fréquente une école publique, mais extrêmement favorisée, d'architecture haussmannienne, qui propose des cours d'hébreu dès la maternelle, et qui accueille des enfants d'ambassadeurs, de financiers, d'avocats, de DRH, c'est-à-dire l'élite internationale. Par un extraordinaire concours de circonstances, Valentine est une très bonne élève. Alors au-delà de ces différences abyssales entre le bas et le sommet de la société, ce livre montre aussi les inégalités et différences tout aussi saisissantes au sein d'une même classe. Par exemple, au sein des classes populaires, le fossé entre les familles les plus précaires et les classes populaires stabilisées. Parmi les plus précaires, on a Balkis, on a aussi Libertad, une petite Rome qui a vécu dans plusieurs campements sans eau courante et qui a vécu plusieurs expulsions. On a aussi Hachan, qui vit seul avec sa mère dans un foyer de sans-abri. Parmi les classes populaires les plus stables, on a Zélie, la fille d'un chauffeur-livreur et d'une assistante médico-administrative qui vit dans un pavillon du périurbain. Dans les classes moyennes, les différences sont déterminées par la nature du capital qui prédomine, économique ou culturel. Alors on a Thibaut, par exemple, qui est fils d'éleveurs, qui ont un capital culturel limité. Ses parents ont eu des parcours scolaires difficiles. Son père a un CAP et un BEP. Sa mère a échoué au bac pro. Et si leur niveau de vie est correct, c'est parce qu'ils travaillent tout le temps, tous les jours de 6h à 20h, dont les week-ends, et ne prennent jamais de vacances. Thibaut regarde beaucoup la télé, il ne va jamais au cinéma ni au musée, il n'a pas d'ordinateur chez lui. Ses loisirs sont centrés sur la ferme, il aide au potager et à l'élevage des cochons, après l'école, le mercredi et le week-end. Il reçoit l'injonction à bien se comporter en classe, mais n'est pas encouragé à lire ni à écrire et ne voit jamais ses parents lire. On ne corrige pas non plus ses fautes de langage, sauf pour les gros mots. Surtout, il est préparé très jeune à recevoir un capital économique et professionnel et le travail à la ferme est très prioritaire sur l'école. Toujours dans les classes moyennes, dans une position sociale bien plus favorisée, on a Mathilde. Ses deux parents sont fonctionnaires de catégorie A. Ils sont propriétaires d'un appartement de 100 mètres carrés dans un quartier gentrifié de Nantes. Mais leur capital économique est assez limité, ils n'ont pas pu acheter dans un vrai quartier bourgeois. Ils compensent donc par des pratiques de distinction, aidés en cela par leur capital culturel élevé. Le papa a fait Sciences Po, la maman a un DEA de philo du droit et elle a le CAPES. La priorité est accordée à la lecture. Mathilde sait déjà lire en grande section. Elle a aussi son grand frère dit précoce en modèle. On projette de l'inscrire dans une école privée avec une volonté assumée de tri social. On veut aussi l'inscrire au conservatoire. Son éducation est très stricte. On lui inculque un esprit de compétition. Elle est aussi l'objet d'une hyper-correction langagière et comportementale au quotidien. Sa mère est condescendante avec l'école. Elle refuse de la laisser au périscolaire et elle sollicite l'instit au moindre relâchement. Fort curieusement, Mathilde est à la fois une petite fille directive et une très bonne élève, car elle est très bien préparée à la compétition scolaire. Enfin, le livre montre aussi la grande diversité au sein des classes supérieures, entre des familles qui ont un fort capital culturel, mais dont le capital économique est secondaire dans la réussite sociale. On a l'exemple de Lucie, fille d'un écrivain et d'une prof de philo, pour qui l'école est centrale dans la reproduction sociale. Je reviendrai sur son cas un peu plus tard. Et inversement, on a des familles à fort capital économique et à faible capital culturel. Par exemple, Matisse, dont le père, qui n'était pas scolaire, a hérité de 10 brasseries à Paris, ce qui lui donne un revenu de 12 000 euros par mois, tandis que sa mère, qui a un CAP et un BEP, ne travaille pas. Et en tant que fils cadet, Matisse va devoir réussir à l'école parce qu'il ne va pas hériter des brasseries comme son frère aîné et qu'il ne pourra pas non plus compter sur le mariage pour son ascension sociale, contrairement à ses sœurs. Et donc il doit réussir à l'école, ce qui risque d'être compliqué.
Hey mec, je me présente, je m'appelle Charles-Henri Dupré. J'habite à Neuilly dans un quartier mal paumé. Je suis fils unique dans un hôtel particulier. C'est la croix, la bannière pour me sustenter. Pas un arabe du coin, ni un euro marché. Auteuil, Neuilly, Passy, tel est notre ghetto.
Hey mec, mon nom à moi c'est Hubert Valéry Patrick Stanislas, duc de Montmorency. À 5 ans et demi, j'avais déjà ma Ferrari. Je pouvais pas la conduire, bien sûr, j'étais trop petit.
As-tu saisi mon pote, notre envie de révolte?
J'ai envie de crier zut, flûte, crotte.
Chier.
Auteuil Neuilly Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil Neuilly Passy, tel est notre ghetto.
Salut, tu vas bien? Salut, tu vas bien? Y'en a marre du fauchon,
du hédien,
du saumon,
du caviar.
Salut, c'est Patrick, l'appareil. Ouais, c'est Pat, tu vas bien? Et moi, tu ne sais pas quelle est ma vie. À côtoyer Chantal ou bien Marie-Sophie, à faire le baisement à des pétasses mal baisées. Enfin, j'ai voulu dire des filles un peu coincées.
Je veux être un voyou, vrai de vrai hors la loi.
Mais quand t'es né ici, vous n'avez pas le choix.
Y'en a marre des Mylène,
Ségolène,
des Sylvine,
Gwendoline,
Églantine,
Marie-Chantal.
Y'en a marre, mon frère, on a de gros problèmes.
Y'en a marre, mon frère, de subir le système.
Mon avenir à moi est déjà tout tracé. Boîte privée, Sciences Po, l'ENA ou HEC. Et dans le pire des cas, si je ne travaille pas, faudra que je reprenne la boîte de papa.
Salut, tu vas bien?
Auteuil-Neuilly-Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil-Neuilly-Passy, tel est notre ghetto.
Puis mec, nous sommes tous les produits d'une société économique dépendante des fluctuations boursières qui déstabilisent le marché.
Oui, mec.
Et pour sortir de ce carcan éducatif capitaliste, il faut savoir dire non, 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 mec.
Salut, tu vas bien?
Auteuil-Neuilly-Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil-Neuilly-Passy, tel est notre ghetto. Auteuil-Neuilly-Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil-Neuilly-Passy, tel est notre ghetto.
Salut.
Nous sommes issus d'une famille qui n'a jamais souffert. Nous sommes issus d'une famille qu'on ne peut plus souffrir. Nous sommes issus d'une famille qui n'a jamais souffert. Nous sommes issus d'une famille qu'on ne peut plus souffrir.
Retour sur Radio Dio dans l'émission Qui ou quoi avec le livre Enfance de classe dirigé par Bernard Lahire. Alors ce livre est une opération politique assumée. Comme le dit la dernière phrase de la conclusion, ces auteurs entendent contribuer à ce que l'ordre inégal des choses soit reconnu, contesté et contrarié. Faire de la sociologie est en soi politique, c'est un sport de combat, pour reprendre le titre de l'excellent documentaire de Pierre Carle sur Bourdieu. Rosa Luxembourg disait que la chose la plus révolutionnaire que l'on puisse faire était de proclamer haut et fort ce qui se passe. Et c'est exactement ce que fait la socio. Elle dévoile le réel de façon redoutable et c'est précisément ce que la bourgeoisie lui reproche. Il est donc pas si surprenant que « La sociologie est un sport de combat », ce documentaire, qui a déjà 20 ans, n'ait encore jamais été diffusé à la télévision française. Ce n'est pas non plus forcément une coïncidence extraordinaire si ces dernières années, le programme de SES, Sciences économiques et sociales, la seule matière qui proposait de la socio au lycée, ait encore une fois été allégé de ses concepts sociologiques par la dernière réforme. Alors, la lecture des 18 études de cas du livre suffit à comprendre l'ineptie des grandes croyances dominantes qui empêchent de penser les réalités sociales et qui imprègnent notamment l'éducation nationale, puisque précisément ces personnels ne sont, dans leur grande majorité, pas formés à la sociologie. Par exemple, la croyance commune est que le mérite est central dans la réussite. L'école de Jules Ferry s'est construite sur cette notion. On pourrait citer ici Spinoza, qui écrivait « Les hommes se trompent en ce qu'ils pensent être libres et cette opinion consiste en cela seul, ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes par lesquelles elles sont déterminées. » En effet, beaucoup de gens en ascension sociale pensent que leur réussite est due au mérite, voire qu'ils se sont faits tout seuls par le travail. Ils omettent ainsi tel héritage économique ou telle pratique éducative chez leurs parents dotés en capital culturel. Et dans les études de cas, on a l'exemple de la maman d'Alexis, qui est cadre dans un centre d'appel et qui tient ce discours et qui présente sa propre trajectoire professionnelle comme exceptionnelle. Et elle l'attribue à sa volonté personnelle malgré ses difficultés scolaires passées. Les profs, quant à eux, les enseignants, sont généralement d'anciens bons élèves et croient souvent en leur propre mérite, celui d'avoir bien travaillé pour réussir à l'école. Mais beaucoup, pas tous mais beaucoup, oublient toutes les conditions matérielles, sociales, culturelles qui leur ont permis de bien travailler pour réussir. D'être à l'aise avec la lecture et l'écriture dans la petite enfance, d'assimiler des comportements attendus par l'école grâce à la famille, de ne pas avoir de soucis matériels. Il faut rappeler au passage que le confinement a révélé l'absence d'ordinateurs dans beaucoup de familles défavorisées. Sans oublier les conditions qui ont permis de financer des études supérieures, notamment leur logement étudiant. Ainsi, peu d'enseignants sont des enfants d'ouvriers, d'agriculteurs, d'employés ou de chômeurs. De cette croyance au mérite proviennent tous les termes très habituels qui qualifient, sur les bulletins ou en salle des profs, les élèves de volontaires, de motivés, ou de feignants, ou de méritants, etc. Mais une vraie méritocratie supposerait qu'il y ait une égalité des chances. Or, ce livre démontre, d'un bout à l'autre, que c'est l'inégalité des chances qui prévaut partout. Une des grandes raisons d'être de la sociologie est de combattre les fausses croyances sur le monde social comme l'idéologie du don. Alors, le livre cite Bourdieu, qui disait « La cécité aux inégalités sociales condamne et autorise à expliquer toutes les inégalités, particulièrement en matière de réussite scolaire, comme des inégalités naturelles, des inégalités de don. » Et beaucoup d'enseignants et de parents pensent par exemple que les enfants ont naturellement un don pour les maths ou un handicap pour l'écriture ou encore un problème génétique d'hyperactivité. Il y a bien sûr des différences d'origine naturelle, mais elles ne jouent, comme par exemple dans le sport, qu'à un très haut niveau. Les enfants, à leur tour, intériorisent ces croyances qui les essentialisent. Et on est loin ici des valeurs républicaines. Cette croyance réactionnaire en l'origine naturelle des qualités, scolaire ou non, est bien plus répandue qu'on ne le croit chez les profs. Les enseignants, comme le rappelle François Bégaudeau, sont un groupe social qui s'est nettement droitisé, donc dépolitisé, depuis les années 80. Il faut rappeler que 40% ont voté Macron au premier tour en 2017, Macron qui avait repris le thème « ni droite ni gauche » du Front National. Contre cette idéologie du don, le livre montre tous les déterminismes sociaux à l'œuvre. D'abord, le capital économique est déterminant. Être pauvre, c'est pas seulement manquer d'argent, c'est avoir un univers des possibles très réduit. Le livre cite la philosophe Stéphanie Chaillou, qui dit « Quand on est pauvre, ce sont des maisons qu'on n'habite pas, des livres qu'on ne lit pas, des rêves qu'on n'a pas, des futurs auxquels on ne songe pas, des expériences qu'on ne soupçonne pas. En revanche, disposer comme dans les classes supérieures, de plus d'espace, de temps, de confort matériel, d'aide humaine, de connaissances, d'expériences esthétiques, d'informations, de soins, de vocabulaire, de possibilités de se reposer, de se divertir, c'est avoir plus de pouvoir sur le monde et sur autrui. Ainsi, les conditions matérielles sont prépondérantes. Dans les familles les plus précaires, la situation est généralement instable. Le scolaire est logiquement relégué derrière la satisfaction des besoins physiologiques immédiats. Dans les classes moyennes, les enfants, au contraire, bénéficient souvent d'une stabilité résidentielle. Ils ont des chambres à eux, souvent même des espaces dédiés aux jeux. On a les moyens de leur acheter des livres, des jeux éducatifs, de les inscrire au sport ou dans des activités culturelles. Dans les classes supérieures, on a carrément les moyens financiers d'inscrire les enfants dans les meilleures écoles privées et sélectives. La maîtrise du temps découle de ces conditions matérielles et elle détermine une disponibilité parentale très inégale. Alors, des classes les plus précaires où le temps est subi, ce qui est aggravé par le déracinement géographique et l'instabilité résidentielle, l'impossibilité souvent de toute aide de la famille et des voisins. Et dans les classes supérieures, à l'inverse, la maîtrise du temps est généralement choisie, on peut aménager son temps personnel et même sa carrière. On délègue souvent une partie des tâches à des aides maternelles, des jeunes filles au père, des domestiques. En dehors du capital économique, le capital culturel est déterminant. Et Bernard Lahire rappelle que les inégalités de capital culturel sont dans une large mesure fondées sur le langage. Dans les classes moyennes à fort capital culturel et dans les classes supérieures, les enfants bénéficient d'une correction langagière. C'est le cas de Rebecca et d'Annabelle qui sont des filles d'enseignantes. Dans les classes populaires, les parents d'Iliès, en revanche, qui sont immigrés algériens et dont la langue française n'est pas la langue maternelle, n'ont pas les ressources de corriger les erreurs de français de leur fils, puisqu'ils font eux-mêmes de nombreuses erreurs. Et dans les classes populaires d'origine française, si on peut corriger les erreurs de langage plus facilement, on se sent trop illégitime malgré tout pour jouer avec les mots, et on est souvent mal informé des enjeux, des acquisitions précoces, de la lecture, de l'écriture, et on délègue cela à l'école. Les loisirs joue aussi un rôle fondamental dans la mise en place des inégalités, et ce, dès la petite enfance. Chez Lucie, fille d'une prof de philo et d'un écrivain, les pratiques culturelles de la famille sont les plus légitimes et les plus utiles pour la réussite scolaire. La culture livresque est omniprésente, la télé ne sert qu'à regarder des DVD soigneusement sélectionnés, on lui fait écouter du Chopin, et Lucie a spontanément envie de lire, de dessiner, de jouer à la maîtresse avec sa sœur. Chez Alexis, enfant de classe moyenne du privé, dont les parents ont eu des difficultés scolaires, ce sont les écrans et le sport qui priment. Les loisirs sont déconnectés de l'école. Alexis joue sur sa console plusieurs heures par jour, on vante même sa dextérité aux jeux vidéo. Et quand il sort, c'est pas au musée ou au théâtre, mais c'est plutôt au zoo, au parc d'attractions et au stade. Alors que Lucie est une élève autonome qui aime l'école, Alexis, quant à lui, manque d'assurance à l'école. La valorisation de la compétition est un atout particulier pour les classes supérieures. Le petit Johan peut ainsi se vanter « Je suis très fort parce que mon père, il est ingénieur ». Il s'approprie les exercices scolaires sur un mode de compétition. Dans les classes populaires et moyennes, on refuse souvent la compétition. Les parents d'Alexei, d'un milieu petit bourgeois en déclin, à fort capital culturel, y sont hostiles. L'épanouissement personnel prime pour eux, et pour cette raison, il y a peu de chances qu'Alexei soit disposé à la compétition scolaire la plus élevée. Le rapport à l'autorité joue aussi un rôle énorme. Les différences de comportement produisent des inégalités dès la maternelle. Les enfants sont très inégalement préparés au régime disciplinaire de l'école. Celle-ci valorise l'autonomie. On voit ce mot partout. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot ? L'intériorisation des règles par les enfants, de sorte qu'il ne soit plus nécessaire de les rappeler. Dans les classes populaires, la désobéissance des jeunes enfants, et notamment celle des garçons, est perçue comme naturelle, ce qu'on voit bien chez Iliès, qui est peu habitué à la contrainte, et dont les caprices sont perçus comme étant dans l'ordre des choses. Iliès n'apprend ni l'autocontrôle, ni à percevoir son comportement comme illégitime, et donc son adaptation à l'école sera difficile. Dans les classes moyennes et supérieures, à l'inverse, c'est la capacité des jeunes enfants à s'autocontrôler qui est jugée normale. Par exemple, Lucie, donc la fille de prof et d'écrivain, a tellement intériorisé les règles qu'il n'y a plus besoin de lui ordonner ni de lui interdire des choses. Alors, Martine Cour, une sociologue qui a participé à cette enquête, a écrit « Sociologie des enfants » et a montré que les classes moyennes à fort capital culturel sont tiraillées entre d'une part la critique des normes et d'autre part l'écoute du souhait de l'enfant. Par exemple, les mamans de Rebecca veulent lui inculquer l'esprit critique sur les questions de genre, mais elles sont décontenancées de l'avoir préféré des trucs de filles comme ses copines à l'école. Et cette tendance des classes moyennes, laisser à tout prix le choix à l'enfant, les pénalise par rapport aux classes supérieures.
Attends, qu'est-ce qu'on fait pour le refrain ? On dit quoi ? Il y en a plein le cul des pauvres ? Ou on dit il y en a marre des pauvres ? Ouais, il y en a plein le cul des pauvres, moi je trouve que c'est mieux. Mais ouais, il y en a marre des pauvres, c'est peut-être plus joli. Ouais, c'est peut-être plus commercial, quoi. Je sais pas, on demande aux producteurs ou... Non, on leur merde ? Ok, bon, ben on... Non, ok, on verra pendant, laisse tomber, envoie, on va voir.
Jamais.
Merde.
Y'en a marre des pauvres. Les pauvres, ils font aucun effort pour devenir riches. Y'en a marre des pauvres. Et quand ils jouent au loto, ils réfléchissent même pas ce qu'ils cochent. Y'en a marre des pauvres. Et puis c'est sûrement la faute des pauvres s'il y a de la misère. Marre des pauvres, marre des pauvres. Y'en a nanana. Y'en a marre des pauvres, oh oui. Marre des pauvres, marre des pauvres. Y'en a nanana. Y'en a marre des pauvres. Y'en a marre. Les pauvres quand ils travaillent, ils enrichissent les riches. Du coup faut pas qu'ils s'étonnent, bah s'ils sont toujours aussi pauvres. Marre des pauvres, marre des pauvres. Ils font chier, ils font chier, ils font chier. Ils sont maigres. Marre des pauvres, marre des pauvres. Ils font chier, ils font chier. Ils mangent encore plus mal que nous. Hey. Et tu peux taper dans tes mains. Ouais, en écoutant ton disque. Allez, vas-y, fais-le, ça va faire super.
Plein, 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 y'en a trop, y'en a plein. Plein, 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 y'en a trop, y'en a plein. Plein, 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 y'en a trop, y'en a plein. Plein, 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 y'en a trop plein le cul. Y'en a marre des pauvres. Et les pauvres, arrêtez de vous plaindre, vous gâchez le bonheur des riches. Y'en a marre des pauvres. Heureusement, les très très riches, tout le monde peut crever, ils s'en foutent. Y'en a marre des pauvres. Et puis c'est facile de se plaindre quand on sait qu'on est la majorité. Marre des pauvres.
Non, parce que tu sais, en fait, j'ai réfléchi à un truc là. C'est, tu vois, entre donner 10 balles, 10 francs, tu vois, à un seul pauvre, ou tu donnes un franc à 10 pauvres, bah moi je préfère donner un franc à 10 pauvres, tu vois, parce que ça fait plus de pauvres qui t'aiment bien, tu vois. Puis je vais te dire, les pauvres, vaut mieux les avoir dans la poche, parce que si tu les as pas dans la poche, bah un jour ils te les font, les poches, tu vois.
Retour sur Radio Dio dans l'émission Qui ou Quoi, avec le livre Enfance de classe. Alors ce livre, dirigé par Bernard Lahire, montre le poids très précoce de l'école dans la reproduction sociale. Il montre que la compétition scolaire est déjà largement entamée en grande section de maternelle. François Bégaudeau dit que l'école est à la fois une instance de relégitimation permanente de la bourgeoisie et une machine à humilier les pauvres. Dans les classes populaires, le fait d'avoir un entourage peu diplômé prépare peu à l'évidence scolaire, et ce malgré des attentes souvent élevées. On ne cherche pas à devancer les apprentissages, on délègue la culture scolaire à l'école parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et au lieu de compenser ces handicaps scolaires, l'école les entérine, surtout en France. L'enquête PISA menée en 2018 a révélé que parmi la quarantaine de pays de l'OCDE, la France est celui qui reproduit le plus les inégalités scolaires, le pays où la réussite scolaire dépend donc le plus de l'origine familiale et le moins du travail personnel. Inversement, les classes moyennes et supérieures ont majoritairement un rapport heureux à l'école et croient en la méritocratie. Dans les classes supérieures, la stratégie scolaire, c'est l'excellence et la compétition est souvent centrale. Alors que dans les classes moyennes, on fait souvent de nécessité vertu. On perçoit les enjeux de pouvoir des classes supérieures, mais on sait qu'on n'a pas les ressources. Et du coup, on met à distance les valeurs de compétition. On met la priorité plutôt sur le bien-être enfantin. C'est le cas de la maman d'Annabelle, qui est prof de français et qui ne veut pas que sa fille prenne de l'avance sur le CP par refus de la compétition. Ce livre montre que l'école peut, d'une part, être un outil d'ascension sociale. On fera peut-être bientôt tourner cette phrase au passé, au rythme où nos dirigeants détruisent l'école publique. Et il montre que l'école peut aussi être une bouée de sauvetage pour les classes les plus précaires, avec en fournissant des aides au logement, des aides administratives, un soutien des parents d'élèves, des dons de vêtements, des douches, des repas. Mais il montre aussi que l'école est un espace violent de disqualification et de relégation. Hormis le tri social que le système scolaire effectue automatiquement, les acteurs de l'éducation ne se rendent pas toujours compte de l'impact énorme des conditions matérielles de vie des élèves sur la réussite scolaire. Par exemple, la directrice d'école de Balkis, qui vit dans une voiture, a dénoncé le papa aux services sociaux. Les parents de la petite Rome Libertad sont très mal perçus à l'école parce qu'ils ont quitté un logement social que la directrice leur avait obtenu. Or, ils sont partis pour des raisons matérielles évidentes. Ce logement était trop éloigné du travail du papa, les horaires de bus ne collaient pas, et donc il risquait de perdre son emploi. Les enseignants imaginent aussi pour Libertad une grossesse à 16 ans, une sortie de l'école sans diplôme, une vie de mendicité, parce qu'à leur connaissance, aucun Rome n'a jamais réussi à l'école. Et donc, ils contribuent, les profs, ainsi, enfin les instits, ils contribuent ainsi sans s'en rendre compte à son échec scolaire. En dehors de ces études de cas, les comparaisons déjà anciennes entre élèves volontaires et élèves feignants sont encore très habituelles. Mais d'autres discours plus récents se sont aussi venus se greffer là-dessus, se sont généralisés. On parle maintenant de plus en plus des parents qui démissionnent, comme si les gens, tout à coup, étaient devenus malveillants vis-à-vis de leurs enfants. Les discours médicaux aussi ont envahi l'école pour qualifier les difficultés comportementales des élèves. On parle maintenant tout le temps de handicap ou alors de dyslexie, de dyspraxie ou encore d'enfants hyperactifs, d'enfants précoces. On ignore ainsi les causes sociales des difficultés des enfants. Alors j'aurai quelques toutes petites réserves à apporter sur ce livre qui sont liées au choix d'une analyse qualitative et non quantitative et des limites qu'une analyse qualitative implique. D'abord, les classes populaires sont très sous-représentées puisqu'elles ne recouvrent que 6 études de cas sur 18, soit un tiers du livre, alors que les classes populaires représentent au moins 60% de la population française. À l'inverse, les classes supérieures sont très sur-représentées. Elles recouvrent un autre tiers du livre alors qu'elles ne représentent que 10% grand maximum de la population. Ce livre pourrait ainsi donner à des lecteurs peu avertis, peu habitués aux analyses statistiques, une vision en trompe-l'œil de la société française. Autre critique, la dernière partie du livre, qui fait environ 250 pages, est une série d'analyses effectuées à partir de ces enquêtes qui expliquent les mécanismes de reproduction sociale. Le problème, c'est qu'elles proposent très peu de statistiques globales, elles fournissent très peu de statistiques. Or, les statistiques à grande échelle sont incontournables si on veut décrire la réalité sociale. Ici, les différents chapitres proposent même des sortes de fausses statistiques qui peuvent nous donner une vision faussée de la réalité, puisque l'échantillon, 35 enfants, est beaucoup trop restreint. Par exemple, on nous dit que 12 des 35 enfants étudiés savent déjà lire ou quasi lire avant le CP, soit un tiers. Mais ce chiffre est nettement surévalué par rapport à la réalité, justement parce que les enfants des classes supérieures et moyennes sont surreprésentés ici. Autre exemple, on nous dit que la majorité des enfants des classes populaires étudiées fréquentent des écoles hors carte scolaire. C'est peu représentatif de la réalité sociale française, puisque c'est surtout la bourgeoisie et les classes moyennes qui contournent la carte scolaire. Il aurait été ici important d'indiquer peut-être davantage de chiffres provenant d'études plus larges. En conclusion, le livre souligne que ces inégalités s'aggravent en France et que l'État aurait un grand rôle à jouer pour les réduire, à rebours de toutes les politiques menées depuis 1983. Mais il faut rappeler que Karl Marx expliquait que le seul vrai moyen de résoudre ce problème des inégalités n'est pas de diminuer, mais de supprimer l'appropriation privée des richesses collectives pour bâtir une société sans classe.
Terrible. Alors les adultes, il faut être sage. Si vous ne voulez pas
Et voilà, c'est donc la fin de cette dernière émission de Kimquoi de la quatrième saison. Donc merci beaucoup, 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 beaucoup Tiffen, comme chaque année, c'était parfait. Donc normalement on se retrouve l'année prochaine et j'espère que l'année prochaine tu reviendras, enfin l'année prochaine, la saison prochaine.
Avec grand plaisir.
Tu es toujours la bienvenue. Donc ben on va s'arrêter là-dessus. Donc pendant 2 mois, où on reprendra sûrement en septembre l'émission. Pendant 2 mois, bah donc plus d'émissions. Je sais que Ghetto Vibes, l'émission d'avant, continue un petit peu. J'en ai parlé avec lui. Voilà. Les podcasts seront disponibles assez rapidement. Tous ceux de la saison, il en manquait un petit peu. Mais justement, j'attendais cette dernière émission pour tous les mettre d'un coup. Ils seront disponibles sur le site de Radio Audio. Voilà, donc en attendant, bonne soirée. J'ai toujours pas récupéré le générique de fin. Alors bon, bah, je mets un morceau au pif. Et puis voilà, à bientôt. Bonne fin de soirée.
Bonsoir.
C-O-T-Y.
Last kind words.